Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 21. Salut Manu.
Salut Nolwenn.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
Une petite revue de presse, 5 articles principaux seulement.
L'usine nouvelle. Les logiciels open source gagnent en crédibilité dans les entreprises. Un article de Nathan Mann.
Donc une constatation que, effectivement, les entreprises utilisent de plus en plus du logiciel libre. Il y a des articles secondaires qui en parlent, et notamment du fait que Microsoft adore l'open source.
Ah bon ? Next Impact. Le Conseil constitutionnel censure un bout de la loi Hadopi, mais rien ne changera. Un article de Marc Ries.
Alors c'était une bien belle nouvelle, une censure de la Hadopi, ça faisait plaisir à tout le monde, sauf quand on s'est rendu compte qu'en fait ils ont juste enlevé un mot, si je comprends bien, et qu'en gros, effectivement, il n'y a pas grand changement au final.
Le monde informatique. Le développeur open source indépendant survivra-t-il au Covid-19 ? Un article de Matt Azé.
Donc en gros, il y a eu beaucoup de codage qui a été fait pendant le confinement. Et ça rince un petit peu les développeurs, en tout cas, c'est ce qui en ressort. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est une des analyses qui s'est faite de ce moment de notre année.
Acteurs publics. Éducation, une boîte à outils numérique partagée à l'avenir incertain. Un article de Émile Marzolf.
Donc, on en a déjà parlé, il y a plein d'applications qui ont été mises à disposition de l'éducation nationale. C'est pas sûr que ces applications, qui sont toutes libres, restent en place longtemps, une fois que le confinement sera terminé, et notamment quand la rentrée en septembre poindra, parce que ces logiciels, il faut les maintenir, c'est pas toujours simple.
Le MAG-IT, Stop Covid, une application ouverte, pas si open source que ça, un article de Gaëtan Raoul.
Donc Stop Covid, on en a parlé pas mal. Bizarrement, c'était supposé être fait en logiciel libre complètement. Maintenant, ça bouge, ça change. Il y a des problématiques de vie privée, de centralisation des données par l'État. Et puis globalement, une application faite par l'État un peu de manière urgente, comme c'est en train de se faire, c'est pas donné du tout que ça va bien fonctionner. On a des exemples dans le passé d'applications qui ont été faites et qui ont été mal faites. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah bah on en a même eu un paquet, effectivement.
Admission post-bac.
Admission post-bac, Louvois.
Et justement, dans l'actualité, il y a eu quelque chose à propos de l'admission post-bac, APB.
C'est ça, c'était APB, Parcoursup, des algorithmes en fait, qui sont censés gérer l'affectation des candidats à la sortie du bac. Et qu'est-ce que vous voulez faire après, du coup, en études supérieures? Le gouvernement avait pondu un truc qui était juste complètement opaque et tout le monde avait un peu gueulé en disant on veut savoir comment ça marche et on voudrait bien que le code du coup soit libre. Si c'est opaque, c'est un peu le bordel et le gouvernement avait fini par céder après pas mal de relances d'accès à CADA, etc. Et on avait obtenu un bout du code source. L'autre partie qu'on n'avait pas accès a été auditée là récemment par la Cour des comptes qui eux avaient accès à l'intégralité du logiciel. Et le rapport est assez marrant, et il y a des bugs de partout, le truc ne fonctionne pas, l'application est immaintenable, il n'y a absolument aucune qualité logicielle. C'est un capharnaüm sans nom et un gouffre financier pour l'État.
En gros, c'est un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait du logiciel.
Alors malheureusement, il y a une partie de ce logiciel qui est libre, ce qui permet de jeter un œil dedans, mais ceux qui ont regardé, si je comprends bien, ils ont vu que c'était du SQL, donc un langage de base de données pour l'essentiel, ce qui est bizarre pour faire un logiciel, et qu'effectivement c'était codé, on sait pas trop par qui, on sait pas trop comment, mais on voit bien que c'est pas codé pour être maintenu, pour être retravaillé, réutilisé.
Moi, je me suis attaqué sur le code source qui a été publié et le truc est absolument illisible. C'est rempli d'acronymes, les variables, ça s'appelle T1, T2, T3, T4. Qu'est-ce qui se cache derrière? On n'en sait rien. On n'a pas de jeu de données en fait pour dire les tests qu'on a fait avec les données d'entrée, puis les résultats qu'on attend à la fin. Il n'y a rien. On ne sait pas le recompiler, on ne sait pas l'exécuter. On ne peut juste rien en faire.
Dans la presse, il y a une histoire qui permet de douter de l'efficacité de ce système, puisqu'on a une lycéenne qui, sur Twitter, s'est exprimée. Elle a 16,5 de moyenne. Et ces 10 choix ont été refusés. Donc, soit effectivement, une sale tête et personne ne veut d'elle, mais l'autre option, c'est que ce Parcoursup fait n'importe quoi.
Il y a même une option encore pire, c'est que Parcoursup aurait été hacké et qu'il y ait des petits malins qui, en utilisant des failles, parce qu'a priori, il y en a pas mal qui seraient intégrés dans le code, mais qui ne sont pas toujours faciles à découvrir, mais qu'en utilisant des failles, il y a moyen de le bidouiller, d'autant qu'on puisse accéder à du code qui est mauvais, du code qui a été mal fait par plein de personnes qui ne sont peut-être même pas tracées de manière précise.
Tu as l'air bien renseigné, Emmanuel.
Oui, c'est pour mon admission post-bac. Effectivement, je me renseigne.
Donc, après, c'est un logiciel qui est utilisé plutôt en interne dans l'éducation nationale, donc qui n'est pas accessible comme ça sur Internet facilement. Donc les risques de hack sont quand même assez limités. Mais c'est vrai que c'est tellement un bordel et c'est aussi des choix qui ont été faits d'orientation de comment est-ce qu'on fait telle ou telle assignation avec ce qu'ils appellent les filières en tension. C'est les filières où il y a beaucoup plus d'étudiants que de places. Et donc, par exemple, cette personne a un SS2 moyenne, et ben, si elle a postulé à que des filières sous tension, ben, il suffit d'avoir des personnes qui ont 20 de moyenne devant elle et forcément, elle sera refusée partout. C'est difficile à comprendre et les critères sont un peu aléatoires de temps en temps. C'est un peu le bordel.
De l'importance d'avoir de la transparence, quoi.
Voilà.
On peut se rassurer, hein. Il y a déjà eu des fuites, des listes de choix qui ont été passées sur Internet, mais ce n'est pas forcément la faute du logiciel, parce que ces choix ils sont envoyés aux établissements, et les établissements sont répartis un peu partout, donc il semblerait qu'il y a eu pas mal de ces listes qui soient déjà en libre accès. Donc c'est un peu énervant.
On a un autre exemple de non-qualité logicielle qui est dans l'actualité, c'est Quant.
Le moteur de recherche français.
Le moteur de recherche de l'administration française et français et européen. On en avait parlé un peu ici. Ouais, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de communication par Quant sur ce qu'ils étaient capables d'offrir. Un entrepreneur qui lui aussi était dans le business des moteurs de recherche, mais s'il faisait un métamoteur, avait mis son nez dedans et critiqué les résultats. Il s'est pris un procès. Il y a des journalistes de Next Impact qui sont allés voir comment ça marchait et ont relevé qu'il y avait quand même des gros problèmes avec... un usage immodéré de Bing, le moteur de Microsoft. Du coup, pour un truc européen ou français, ça fait plutôt tâche. Donc, ça a fait pas mal de bruit. Le patron de Quant a été poussé dehors. Et là, il y a eu un audit qui est assez catastrophique.
C'est la DINUM qui a demandé un audit, en fait, puisque vu qu'il allait être installé dans toute l'administration, ils aimeraient bien savoir ce qu'il y a un peu derrière. Et l'audit a fuité et la DINUM a constaté que en fait, Quant était à l'état de prototype. Donc là, on parle de juin-juillet 2019, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et apparemment, ça n'a pas beaucoup changé depuis, et que le truc juste ne marche pas, qu'il se pèse dans un verre d'eau, et qu'il n'y a pas de résultat derrière. Donc là, on ne peut même pas parler de défaut de qualité logicielle, il n'y a pas de logiciel du tout. Et le problème, c'est que ça a coûté des centaines de millions d'euros à la Caisse des dépôts et des consignations qui est derrière pour financer ce projet-là. Soit en investissement direct, soit en déploiement dans l'administration. Il faut voir le coût aussi, qu'aujourd'hui, du coup, ça veut dire des fonctionnaires qui utilisent un moteur de recherche qui ne peut donner quasiment aucun résultat fiable ou récent.
Des chercheurs aussi.
Voilà, donc si vous êtes chercheur et vous cherchez une publication, bah, vous allez avoir que des publications qui datent de 2017 ou moins. Donc ça fait aussi perdre de l'argent beaucoup à l'État de ce côté-là, perte de compétitivité, etc. C'est aussi une catastrophe industrielle, ce truc-là.
Ouais, ouais. Pour moi, le fait que ça coûte de l'argent à développer, ça ne me choque pas nécessairement. On se doute que si on veut aller faire de la concurrence à Google, il va falloir mettre un gros paquet de pognon sur la table parce que c'est une mission très ambitieuse. En revanche, là où c'est problématique, c'est qu'effectivement, quand on donne à utiliser alors que ça marche pas, et qu'en plus de ça, on est quand même très loin d'avoir l'autonomie et l'indépendance revendiquées, là, ça devient très problématique.
Mais là, c'est du lobbying, parce que l'ancien PDG de Quant est assez proche des politiques, donc forcément, c'était des renvois d'ascenseur ou autre chose. Et du coup, bah, y a eu le forcing de fait, et ce truc-là a été déployé, alors que bah, tous les indicateurs étaient au rouge, et que le truc ne fonctionne pas. Et personne ne comprend pourquoi il y a un entêtement généralisé au niveau de l'État à ce niveau-là.
Alors, vous êtes très négatif, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours des possibilités de s'en sortir. Avec le temps, avec les efforts, il y a moyen de faire du bon logiciel. Et j'ai cru comprendre que Blender, au début, c'était un logiciel plein de bugs qui plantait tout le temps. C'est quoi Blender, hein, Luc ?
Alors, Blender, c'est un logiciel de 3D, donc on en parle notamment parce que Jean, qui s'est déjà exprimé chez nous, a publié un petit article dans Linux FR, enfin un article tout à fait respectable, et qui fait un bilan, puisqu'aujourd'hui, voilà, Blender a vraiment le vent en poupe. Donc c'est un logiciel de 3D dans le sens voilà pour faire des dessins animés, de l'animation, etc. Donc vraiment dans le côté artistique et pas dans le côté technique de dessin industriel. Donc Blender est un logiciel qui a connu des débuts assez mouvementés en appartenant à des boîtes privées qui ont essayé de faire de l'argent avec des modèles de type bon logiciel est gratuit mais les services autour sont payants, etc. Et au début des années 2000, chaque boîte s'étant plantée. Son créateur, qui s'appelle Ton Rosendahl, qui est un Hollandais, a dit « Pourquoi pas le mettre en libre ?» Et la boîte avait dit bah, « File-moi 100 000 $ et je suis d'accord. » Il y avait une souscription, c'est à l'époque on ne parlait pas de financement participatif, et qui avait réuni les 100 000 $ en un temps vraiment record, hein, je crois en 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et effectivement, moi je l'ai utilisé à l'époque, et ça plantait à tour de bras. Dès qu'on faisait un truc qui n'était pas prévu, il n'y avait pas de message d'erreur, quoi. Le message d'erreur, c'est « je ferme tout, je crache ». Et le logiciel s'est vraiment enrichi au fil du temps. Il y a une communauté considérable derrière. Les fonctionnalités sont arrivées et tout le monde disait, waouh, ouais, c'est pas à niveau, c'est pas du logiciel professionnel. Ce qui n'a pas empêché la fondation Blender de se monter, de faire des dessins animés. Donc, c'est-à-dire d'utiliser le logiciel. Faut pas que des dessins animés d'ailleurs, mais d'utiliser le logiciel qu'elle développait pour faire des œuvres artistiques qui elles-mêmes sont sous licence libre. Donc, on a une démarche qui est complète. Cette année, en quelque sorte, c'est un peu la consécration, puisque il y a toute une série d'acteurs de très haut niveau qui mettent de l'argent dans Blender, notamment des studios de jeux vidéo, enfin Ubisoft, Epic Games, et des choses comme ça, Google, Intel, donc des très très grosses boîtes. Aujourd'hui, voilà, on a un logiciel qui est en train de s'imposer dans le monde professionnel. Alors, ça a pris du temps, hein, en 20 ans, à réussi à bouffer les gros éditeurs sérieux. Aujourd'hui, bah, Blender est sérieux dans le domaine professionnel, mais ça reste un logiciel communautaire.
Les studios hollywoodiens s'en emparent et ont l'air de commencer à l'utiliser un peu partout dans leur production.
Ils l'utilisent pour l'instant pas sur leurs grosses productions. Notamment bah, toutes les boîtes qui font des effets spéciaux ou les boîtes qui font des jeux vidéo, ils sont très riches, ils ont des budgets énormes, donc ils éditent leur propre logiciel. Mais du coup, ils ont compris que c'était quand même sans doute très intéressant de mettre en commun leurs moyens pour se faire le meilleur logiciel plutôt que de tous bosser en parallèle sur les mêmes trucs. Donc, ils les utilisent pour des trucs un peu périphériques. Mais ils sont en train de voilà d'avancer pas à pas. C'est des mastodontes, hein, donc ils peuvent pas tout changer en un claquement de doigts. Mais clairement, ils ont compris l'intérêt de collaborer sur leurs outils et de rentrer dans la démarche du libre.
Si je comprends bien, il y a des nouveaux moteurs qui viennent d'être inclus dans les dernières versions de Blender, notamment AMD, donc une grosse boîte qui fait beaucoup de graphisme, qui y a contribué. Et là, les moteurs de Blender ont l'air de dépasser tous les autres, notamment à faire du ray tracing, donc une technologie quand même assez appropriée pour faire du photoréalisme hyper avancé. Ils ont l'air d'être un peu à la pointe.
Il y a des moteurs très performants. Alors, ray tracing, c'est une des méthodes qui est utilisée depuis très longtemps. Hein. Donc, en soi, la technologie elle-même n'est pas novatrice. Mais pendant longtemps, Blender, effectivement, souffrait d'un moteur interne qui était assez poussif. Et depuis quelques années, il y a un premier moteur qui est en photoréalisme, qui est très puissant, qui a été mis en place. Et là, un nouveau moteur complémentaire qui permet de faire des rendus très rapides. Et aujourd'hui, comme les gens qui font de la 3D ont des machines super puissantes, avec ce moteur très rapide, bon, qui n'est pas aussi qualitatif que l'autre, mais ils arrivent quand même à voir leur scène avec les textures, les ombres, etc., en temps réel dans leur machine, ce qui devient un truc vraiment, vraiment balèze, quoi.
Là, ce qu'on pourrait espérer maintenant, c'est que la Cour des comptes arrive, débarque, fasse un audit du code et regarde combien il y a de bugs, de bonnes pratiques qui ont été suivies, de développeurs, de documentation. J'aimerais bien avoir une comparaison avec les outils comme Parcoursup, hein, qui donc ont l'air de partir de très loin. Blender, on peut supposer qu'eux aussi ont eu des pratiques qui étaient peut-être un peu mauvaises à une époque, et que clairement, ils ont amélioré leur travail. C'est devenu une boîte internationale avec des développeurs qui sont sûrement un peu partout.
C'est pas une boîte, c'est une fondation. Y a plein de gens qui gagnent leur vie avec. Mais c'est bien une fondation, et c'est là où, pour moi, c'est un des logiciels libres les plus exemplaires qui soit, c'est qu'ils ont réussi à avoir une démarche complète, à ne pas faire ce qu'on appelle de l'open washing, comme certains font. Et dans le milieu professionnel, il y a des logiciels pro qui, sur le papier, sont des logiciels libres, mais on va essayer de tordre les licences et de trouver des astuces pour finalement faire comme les éditeurs propriétaires, mais avec une licence libre. C'est pas le cas de Blender. Blender, ils sont réellement dans le logiciel libre, et ils sont toujours dans l'esprit, quoi. Et ça ne les empêche pas d'arriver au top dans le milieu.
Et de manière générale, de toute façon, le logiciel libre, comme c'est des communautés qui sont internationales, qui vont voir passer plein de personnes, des milliers de personnes, et qui vont venir repartir, il n'y a pas vraiment d'équipe stable, etc. Ça incite à mettre les bonnes pratiques en place tout de suite. C'est ce qui manque, par exemple, ce qui a été placardé par la Cour des comptes, c'est que Parcoursup, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas d'organisation, ça doit être deux gus qui ont développé le truc, et on a perdu la doc, on les a perdus, on ne sait plus où ils sont et on ne sait plus comment maintenir ce truc-là. Et c'est pas possible de faire ça avec un logiciel libre, parce que si on fait ça, on va s'auto-tuer immédiatement. Et donc, de base, on a besoin d'avoir une certaine organisation pour avoir une qualité logicielle correcte.
On peut le faire avec un logiciel libre qui ne marche pas et qui n'a pas de succès. Mais c'est vrai que dès lors que tu as une communauté, tu ne peux pas cacher la poussière sous le tapis, c'est pas possible. Et il y a plein d'autres trucs aussi, hein, parce que donc Blender est le logiciel, et il y a plein de gens qui développent des plugins, hein, donc des greffons, des petits logiciels qu'on va pouvoir charger pour faire des choses spécialisées, par exemple. Donc il y a plein de gens qui développent ça, et du coup c'est aussi un moyen pour Blender de voir qu'est-ce qui marche. S'il y a du succès, ça veut dire qu'il y a un besoin, et donc du coup ils peuvent dire, vu que tel développeur de greffons a fait quelque chose qui plaît, eh ben, on peut prendre les idées, les intégrer dans la version suivante. Et du coup, ils font des choix sans nécessairement prendre des risques en disant on a cette super idée, mais on ne sait pas si les gens vont en avoir besoin, en fait.
En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense que ce n'était pas donné. Au début de Blender, c'était pas clair que ça allait devenir une star. Mais là, bah, ils sont sur la rampe de lancement. On n'attend plus que les prochains films avec Blender marqué dans les équipes de réalisation. Ça fera plaisir. Sur ce, je vous dis peut-être à la semaine prochaine.
Et oui, bah, j'espère bien.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Bonne semaine.